Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Alors je vais le lire. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà ce que ce passage nous dit. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Un juge américain qui se vantait d'être libre penseur avait à son service un chauffeur de couleur. Celui-ci conduisait souvent son maître dans ses tournées de chasse, son sport favori. Un jour qu'ils roulaient ensemble sur la route, le maître dit à son serviteur « Dis donc Sam, je ne comprends rien à ton espèce de christianisme. Moi qui suis incrédule, pour qui il n'existe ni Dieu ni diable, ni ciel ni enfer, moi qui ne crois ni à Christ ni à la Bible, je suis parfaitement heureux de mon sort. Tandis que toi, qui prétends être chrétien, tu dis que le diable te tente, que tu as toutes sortes de difficultés et d'épreuves dans ta vie. Tu vois bien que je suis plus heureux que toi avec ta religion. » Le pauvre Sam était bien perplexe. Il dut avouer qu'il ne savait que répondre aux arguments de son maître. Sur ce, ils arrivèrent sur le terrain de chasse, et le fusil du juge abattit ce jour-là plus d'un malheureux canard sauvage. L'affaire de Sam était alors de courir ramasser le gibier. Tandis qu'il y allait, son maître lui cria de loin. « Écoute Sam, ne t'occupe pas des canards morts, ils t'attendront bien. Dépêche-toi de poursuivre les blessés et attrape-les avant qu'ils ne se sauvent. » Sam obéit fidèlement aux injonctions de son maître, puis en lui présentant le gibier, il lui dit « Massa, je crois que j'ai la réponse à votre question de tout à l'heure. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes le canard mort. Et le diable vous laisse tranquille parce qu'il sait très bien qu'il vous aura quand il voudra. Tandis que moi, je suis le canard blessé. C'est pour ça qu'il me court après et me fait tant de misère. » Qu'est-ce que nous apporte cette histoire? Elle est incroyable, n'est-ce pas? Et là, on voit que cette personne a répondu avec beaucoup de sel. Avec beaucoup de sel et d'intelligence. Il a su saisir l'occasion de présenter l'Évangile. Et il l'a fait avec beaucoup de tact. En tant que chrétien, il est vrai que nous devons nous conduire avec ceux du dehors correctement, aussi bien qu'avec nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Vous savez que dans notre vie quotidienne, ceux qui ne sont pas chrétiens nous observent. Ils aiment bien regarder nos actes, regarder ce que nous faisons. Quand ils savent que nous sommes chrétiens, ils nous épient, n'est-ce pas? Le monde s'intéresse plus à nos actes qu'à nos paroles. Comme disait Edgard Guest, « Je préfère voir un sermon n'importe quand plutôt que d'en entendre un. » Ce n'est pas pour autant qu'en tant que chrétien, nous devons nous taire, n'est-ce pas? Mais il faut que nos actes correspondent à nos paroles. On ne devrait pas qu'on dise de nous beaucoup de paroles, mais peu d'actes. N'est-ce pas? On n'aime pas ça. Hein? Proverbe 15, versets 1 et 2 nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais la parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. C'est vrai qu'il n'est pas facile pour nous, chrétiens, de vivre dans ce monde, parce que c'est vrai que nous ne sommes plus de ce monde. Une fois que nous acceptons Christ, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et avec cela arrivent les difficultés. La première difficulté, c'est déjà de faire la différence entre ce qui est de ce monde et ce qui n'est pas de ce monde. C'est pour nous de savoir la différence à qui nous parlons, si c'est un chrétien ou pas. La seconde, c'est de savoir comment se conduire avec cette personne. Quelle va être notre démarche avec cette personne? Comment est-ce que nous allons faire pour lui parler de Christ, n'est-ce pas? Il faut chercher la paix et la poursuivre. En 1 Pierre 3, 11, ça nous en parle. La sagesse consiste donc à évaluer la situation avec pertinence et de prendre les décisions qui s'imposent. Il faut surtout s'appuyer de notre bon sens, mais avant tout et surtout, s'appuyer sur la parole de Dieu pour parler de Dieu. C'est mieux de s'appuyer sur sa parole que de notre bon sens, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes des chrétiens qui annonçons la fin du monde et qu'elle ne vient pas, je pense qu'on va passer pour un peu des imbéciles, en restant poli, hein. Ou alors, si on se prend pour ces faux prophètes qui annoncent des choses et qui n'arrivent pas, on fait tout sauf proclamer la parole de Dieu, n'est-ce pas? On fait du tort aux vrais chrétiens et on fait du tort à Dieu. Sans compter les religions qui rajoutent d'autres choses à la grâce, les actions, les « il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger ci ». Donc tout cela, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? La sagesse consiste donc à tirer parti des occasions que la vie nous donne et de faire notre devoir de croyant. En psaume 90, verset 12, psaume 90, verset 12, Moïse a prié « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. » Que nos cœurs acquièrent la sagesse. Dans notre passage de ce matin, les dernières lignes du verset 1, du verset 5, il nous dit racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Il faut mettre à profit toutes les occasions, n'est-ce pas? L'occasion de témoigner de la puissance de Dieu, de la puissance du salut que Dieu nous offre à travers son Fils Jésus-Christ. Et racheter le temps a aussi une idée de rachat, de rachat. Ça veut dire que c'est un coût. Ça va nous coûter. Ça peut nous coûter notre fierté, ça peut nous coûter du temps. Mais c'est un prix que nous devons être prêts à payer pour cela, n'est-ce pas? Nous devons payer ce prix pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur entendent ce que nous avons à dire. Ceux du dehors, qui sont les non-chrétiens, nous observent. Il faut que notre foi en Christ soit reconnue comme crédible. Si nous ne sommes pas crédibles, tout ce que nous pourrons dire ne servira à rien. C'est vrai que le temps nous est précieux. Nous ne savons pas le temps qui nous reste à vivre sur terre. Nous ne savons pas si demain nous nous réveillerons. Dieu seul le sait. Ça fait aussi partie de, quand on dit racheter le temps, il faut penser à cela. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Demain, sachez que si vous vous réveillez demain, c'est une grâce que Dieu vous fait. Si je me réveille demain, c'est une grâce que Dieu me fait. Jacques 4, verset 14, nous dit « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous avez déjà vu de la vapeur? On la voit, mais pas longtemps, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous soulevez la cocotte et vous voyez la vapeur, et au bout de quelques secondes, elle n'est plus là. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Notre parole doit être aussi accompagnée de grâce. Il faut être doux, sensible, attentionné, avec amour et délicatesse. C'est vrai que, pardonnez-moi l'expression, si vous arrivez comme un bourrin vers quelqu'un et dire « Tu as besoin de Dieu, Dieu te veut », je ne suis pas sûr qu'il vous écoute, il va plutôt avoir tendance à se sauver. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, si on m'agresse comme ça, je vais faire « Oula, qu'est-ce qu'il veut ?» C'est vrai que Des fois, ce n'est pas évident. On veut tellement bien faire les choses que des fois, on ne réfléchit pas forcément à nos actes, n'est-ce pas? L'expression « assaisonner de sel ». Alors ça, je me suis dit « assaisonner de sel ». Je vais prêcher sur un condiment ce matin. « Assaisonner de sel ». Alors, j'ai regardé la définition que la Bible en donne. Il y a 4 points. Alors, « sel » qui sert à assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes. Alors, produit salin, deuxième définition, utilisé pour fertiliser les terres arables. Et troisième définition, symbole de la concorde, il protège la nourriture de la putréfaction et la conserve. Et sagesse et grâce la quatrième, sagesse et grâce exprimée dans ses paroles. On voit ici que le sel est subjectif, n'est-ce pas? Il donne la saveur et il conserve. Deux avantages précieux pour nous, qui sommes désireux de rendre un témoignage. Certains commentateurs disent aussi que le sel, c'est, nous permet, on doit être honnête et sans hypocrisie quand on parle. C'est vrai que pour d'autres, le sel relève le goût. Donc on voit que Paul nous enseigne que notre conversation ne doit jamais être ennuyeuse, banale ou insipide. Alors, insipide, ça veut dire qu'il n'a pas de goût. Le sel donne la saveur. Alors, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà goûté un plat hyper salé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, donc vous savez de quoi je parle. Si vous faites tomber la salière dans le pot, dans le faitout ou la casserole, vous avez beau retirer tout de suite le sel, vous goûtez après, oh, je ne sais pas vous, mais j'aime pourtant certaines choses salées. Mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que le sel doit être assaisonné. Assaisonné, c'est-à-dire répandu avec parcimonie. On doit répandre le sel avec parcimonie. C'est-à-dire que si on parle de Dieu, on doit parler de Dieu, on doit parler des conséquences et tout ça, mais il faut, en fonction de l'auditeur qui nous écoute, il faut savoir assaisonner les paroles de Dieu. C'est les donner avec délicatesse, avec humilité, avec amour, bien sûr. Pas lui dire « t'es un pécheur, tu vas aller en enfer ». Ça peut peut-être marcher pour certains, mais je pense qu'il faut y aller un peu plus délicatement que ça, n'est-ce pas? Et le sel sert aussi à conserver. Conserve les aliments. Alors nous sommes le sel de la terre. Vous savez qu'en étant les sels de la terre, en tant que chrétiens, nous conservons la planète telle qu'elle est pour l'instant. En tant que chrétiens, nous sommes là et nous empêchons Satan de faire tout ce qu'il veut faire sur terre. Quand nous ne serons plus là, on arrivera dans les temps d'Apocalypse. Et avec le premier sceau qui sera ouvert, 50% de la population mondiale va mourir. Tant que nous sommes là, nous sommes aussi le sel de la terre. Mais si nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes là, si nous ne sommes pas du sel, qu'est-ce que nous ferons? Si nous ne sommes pas là pour assaisonner la parole de Dieu, pour dire aux gens qu'ils ont besoin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un plat sans sel n'a aucun goût. Et je ne sais pas vous, mais manger quelque chose qui n'a pas de goût, moi, je n'aime pas. Hein. Franchement, quelque chose qui n'a pas de goût, j'y arrive pas. Hein. C'est difficile, mais c'est comme ça. Les païens emploient le mot sel dans un sens aussi, avoir de l'esprit. Et Paul nous le remplace par sagesse. La meilleure façon d'exprimer cette expression est d'étudier le passage, le langage du Seigneur Jésus-Christ quand il dit à la femme adultère « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » On voit ici deux éléments. La grâce, dans les mots « Je ne te condamne pas non plus », puis le sel, dans l'exhortation « Va et ne pêche plus. » Quel équilibre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir la sagesse de Dieu et de pouvoir parler comme ça? la sagesse de Jésus et pouvoir parler comme ça. C'est pourquoi je nous invite à tous prier en nous-mêmes pour que nous ayons cette sagesse, pour que Dieu nous donne cette sagesse de répandre le sel comme il le faut, d'être un sel agréable. C'est vrai que quand nous voulons parler de Dieu, nous devons rester sous la dépendance du Saint-Esprit qui nous conduira, qui nous dira de parler ou de nous taire. Des fois, il y a des moments où on doit parler, des moments où on doit se taire. Mais il faut savoir que chaque rencontre avec un non-chrétien peut être une occasion d'évangéliser et de parler de Dieu, de la grâce de Dieu pour lui. Donc ça veut dire que nous avons quand même du travail. C'est sûr que si on répand le sel dans la nourriture par poignée, ça ne le fera pas. Il faut demander à la sagesse de Dieu, pour que nous puissions répandre ce sel avec parcimonie, afin que ce que nous disons ait un bon goût pour ceux qui l'écoutent. Mais nous devons aussi ne pas oublier que nous devons demander davantage à Dieu, qui nous donne davantage d'amour pour les pécheurs, qui nous donne cette sagesse, afin de nous permettre à chaque occasion de pouvoir parler de la grâce de Dieu. Pour conclure, je vais vous citer une expérience que j'ai vécue. C'est du concret, c'est du réel, et j'en suis pas fier. Donc, ce que je vais vous dire, ne faites pas comme moi. Il y a quelques années de ça, j'ai eu un collègue de travail qui était connu comme quelqu'un de lourd et bourru. Et quand je dis lourd, il était plutôt très lourd. Je ne sais pas comment dire ça, mais ses paroles étaient plutôt graveleuses et tout ça. Mais derrière cette façade-là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de sensible. C'était une armure qui se mettait. Et quand il est parti à la retraite, j'aimais bien aller le voir. Je ne sais pas pourquoi, je passais le voir, parce que j'avais envie de le voir, parce que je savais que très peu de mes collègues allaient le voir. Je pense que sur la centaine de collègues que nous étions à lui aux travaux, il y a 2 personnes qui sont allées le voir. Vous voyez, comme quoi il s'était bien exclu. Alors quand j'allais le voir, on parlait de choses diverses, de d'autres, des choses banales, mais peu à peu, il s'est confié à moi, à ma grande honte. Il m'a dit une chose que j'ignorais, c'est qu'il était cardiaque et qu'il avait des problèmes de cœur. À ce moment-là, j'ai pensé de lui demander où il en était avec Dieu, mais à ma grande honte, je ne l'ai pas fait. Quand je ne savais déjà d'une pas comment lui poser la question, mais je pense que j'ai surtout eu peur. Je n'ai pas eu la sagesse de poser cette question. Et en partant, je m'en suis voulu. Je me suis dit, j'aurais dû lui poser la question. Je me suis dit, mais bon, je lui poserai la prochaine fois. Seulement, voilà, il est mort 15 jours après. Et je n'ai jamais pu lui poser cette question. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, que votre conduite soit prudente. Rachetez le temps. Excusez-moi. Matthieu 5, verset 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, quelle sera notre responsabilité devant Dieu ?» Voilà les mots de fin que je voulais vous partager ce matin. Amen.